Chapitre 11. Maggie essaye d'échapper à son ombre. Les intentions de Maggie, comme toujours, avaient une plus grande portée que Tom ne l'avait imaginée. La résolution qui s'empara de son esprit, après que Tom et Lucy furent partis, n'était pas si simple que de retourner à la maison. Non, elle se sauverait et se rendrait chez les bohémiens, et Tom ne la verrait jamais plus. Ce n'était nullement une idée nouvelle pour Maggie. On lui avait si souvent dit qu'elle ressemblait à une bohémienne et qu'elle était à moitié sauvage, que lorsqu'elle se sentait malheureuse, il lui semblait que la seule manière pour elle d'échapper à la honte et d'être tout à fait en harmonie avec les circonstances serait de vivre dans une petite tente brune sur les terrains communaux. Les bohémiens, pensait-elle, seraient heureux de la recevoir et aurait beaucoup de respect pour elle en raison de sa haute instruction. Elle avait une fois fait mention de cette manière de voir à Tom, et lui avait suggéré qu'il pourrait teindre sa figure en brun et qu'ils se sauveraient ensemble. Mais Tom avait rejeté ce projet avec dédain, faisant observer que les bohémiens sont des voleurs qui ont à peine de quoi manger et qui n'ont qu'un âne pour monture. Aujourd'hui, toutefois, Maggie pensa que son infortune avait atteint un point auquel la bohème était son seul refuge. Et elle se leva des racines de l'arbre avec le sentiment que c'était une grande crise dans sa vie. Elle courrait tout droit jusqu'à ce qu'elle arrivât au communau de Dunlow, où il y aurait bien certainement des bohémiens. Et le cruel Tom et le reste de ses parents qui la trouvaient en faute ne la reverraient jamais. Elle pensa à son père en courant, mais elle se réconcilia avec l'idée de le quitter, en se disant qu'elle lui enverrait secrètement une lettre par un petit bohémien qui se sauverait sans dire où elle était. Et elle lui ferait seulement savoir qu'elle était bien et heureuse et qu'elle l'aimait toujours beaucoup. Maggie fut bientôt hors d'haleine en courant. Mais quand Tom revint à l'étang, elle était déjà à la distance de 3 longs champs et avait atteint la haie du sentier conduisant à la grande route. Elle s'arrêta pour respirer un peu, en réfléchissant que ce n'est pas chose si agréable de se sauver jusqu'à ce qu'on fût arrivé au communau où étaient les bohémiens. Mais sa résolution n'avait point cédé. Elle passa au travers de la barrière dans le sentier, sans savoir où il la conduirait, car ce n'était pas par ce côté qu'on venait du moulin de Dorlcote au pin de Garum, et elle ne s'en trouva que plus rassurée, parce qu'il n'y avait pas de chance qu'on la rejoignît. Mais elle aperçut bientôt, non sans trembler, 2 hommes venant à sa rencontre le long du sentier. Elle n'avait pas prévu cette possibilité de rencontrer des étrangers. Son esprit ne pensait qu'à des amis venant à sa poursuite. Ces formidables étrangers étaient des hommes mal vêtus et au visage coloré, dont l'un portait un paquet au bout d'un bâton sur son épaule. À sa grande surprise, tandis qu'elle craignait leur désapprobation de sa fuite, l'homme au paquet s'arrêta, et d'un ton moitié dolent et moitié cajolant, lui demanda si elle avait une pièce de monnaie à donner à un pauvre homme. Maggie avait une pièce de 6 pence dans sa poche, présente son oncle Clegg, qu'elle sortit immédiatement et donna à ce pauvre homme avec un sourire poli, espérant qu'il serait bien disposé en faveur de sa généreuse personne. « C'est tout l'argent que j'ai, dit-elle, en manière d'excuse. « Je vous remercie, petite demoiselle, dit l'homme d'un ton moins respectueux et moins reconnaissant que Maggie ne s'y attendait. Et même elle le vit sourire et faire signe de l'œil à son camarade. Elle continua rapidement sa route. Mais elle s'aperçut que les 2 hommes restaient à la même place, à la regarder probablement, et elle les entendit bientôt éclater de rire. Tout d'un coup, il lui vint à l'esprit qu'il pensait peut-être qu'elle était idiote. Tom lui avait dit que ses cheveux coupés la faisaient ressembler à une imbécile, et c'était une idée trop pénible pour l'oublier. Outre cela, elle n'avait point de manches, seulement une cape et un chapeau. Il était clair qu'elle ne pouvait pas faire une impression favorable sur les passants, et elle crut qu'il vaudrait mieux rentrer dans les prés, mais pas du même côté qu'auparavant, de peur qu'il n'appartînse encore à l'oncle Paulette. Elle y rentra par la première porte qu'elle trouva ouverte, et éprouva une délicieuse sensation de solitude à se glisser le long des haies après l'humiliation de sa récente rencontre. Elle était habituée à errer seule dans les prés, et y était moins timide que sur la grande route. Il lui fallut quelquefois escalader les barrières élevées, mais c'était un léger inconvénient qui la mettrait plus rapidement hors d'atteinte et la conduirait bientôt en vue des communaux de Dunlow, ou au moins de quelques autres, car elle avait entendu son père dire qu'on ne pouvait aller loin sans en rencontrer. Elle l'espérait bien, car elle commençait à être fatiguée. Elle avait faim, et il n'y avait point à espérer de pain ni de beurre avant de rencontrer les bohémiens. Il faisait encore grand jour, car tante Poulett, conservant les habitudes de la famille Dodson, prenait le thé à 4h30 d'après le soleil, et à 5h d'après la pendule de la cuisine. Aussi, quoiqu'il y eût près d'une heure que Maggie était partie, il n'y avait encore aucune obscurité qui pût, en se répandant sur les champs, l'avertir que la nuit allait venir. Toutefois, il lui semblait qu'elle avait fait beaucoup de chemin, et il était vraiment surprenant qu'aucun terrain communal ne se présentât à ses yeux. Jusqu'alors, elle avait marché sur la riche paroisse de Garum, où il y avait une grande quantité de pâturage, et elle n'avait vu qu'un seul laboureur à distance. C'était très heureux à certains égards, car des laboureurs auraient pu être trop ignorants pour comprendre ce qu'il y avait de convenable à ce qu'elle désirât aller aux communaux de Dunlow. Cependant, il serait mieux qu'elle pût rencontrer quelqu'un qui voulût bien lui indiquer le chemin, sans désirer savoir quelque chose de ses affaires particulières. Enfin, les prés verts prirent fin, et Maggie put, entre les barreaux d'une barrière, voir un sentier, avec une large bordure d'herbe de chaque côté, et sans savoir pourquoi, elle présuma que les communaux ne devaient pas être éloignés. Peut-être est-ce parce qu'elle vit un âne avec une entrave au pied, paissant sur la bordure du gazon, car elle en avait vu un semblable sur les communaux de Dunlow, quand elle les avait traversés en cabriolet avec son père. Elle se glissa à travers les barreaux de la barrière et se mit à marcher avec un nouveau courage, non toutefois sans qu'il se présentât à son esprit quelques images d'Apollyon ou de quelque brigand de grand chemin avec un pistolet ou quelque nain aux yeux clignotants vêtus de jaune avec une bouche allant d'une oreille à l'autre, ou telles autres apparitions aussi dangereuses que variées. Car la pauvre petite Maggie avait à la fois la timidité d'une imagination vive et l'audace qui vient d'une impulsion indomptable. Elle s'était lancée avec impétuosité à la recherche de ses semblables, les bohémiens, et maintenant qu'elle se trouvait dans ce chemin inconnu, elle osait à peine regarder de côté, dans la crainte de voir le satanique maréchal Ferrand, avec son tablier de cuir, lui faisant la grimace, les poings sur les hanches. Ce ne fut pas sans un violent battement de cœur qu'elle aperçut une petite paire de jambes nues levées en l'air, les pieds en haut, à côté d'un tertre. Cela ressemblait à quelque chose de hideusement surnaturel, à quelque espèce de champignon diabolique, car elle fut trop agitée au premier instant pour voir les habits en guenilles et la tête en désordre qui y étaient attachés. C'était un jeune garçon endormi, et Maggie s'avança plus vite et plus légèrement, dans la crainte de le réveiller. Elle n'eut point l'idée que ce pût être un de ses amis les bohémiens, qui, selon toute probabilité, devait avoir des mœurs très primitives. Cependant, il en était ainsi, et au premier détour du sentier, Maggie vit positivement en face d'elle la petite tente noire demi-circulaire qui devait être son refuge contre tous les reproches cruels qu'il avait poursuivis dans la vie civilisée. Une fumée bleuâtre s'en échappait. Elle vit même une grande figure de femme près de la colonne de fumée, sans doute la mère bohémienne qui distribuait le thé et autres rafraîchissements. Elle fut très étonnée de ne pas ressentir plus de plaisir. Mais c'était déconcertant de trouver les bohémiens dans un sentier et non sur un terrain communal. En vérité, c'était presque une déception, car de mystérieux communaux sans limite, où il y avait des sablonnières pour se cacher, et où l'on était hors de toute atteinte, avait toujours fait partie de la peinture que Maggie se créait de la vie bohémienne. Toutefois, elle s'avança avec la pensée consolante que les bohémiens ne connaissaient probablement rien au sujet des imbéciles, et qu'il n'y avait ainsi aucun danger qu'ils la classassent parmi ces infortunés. Bien certainement, elle avait éveillé l'attention, car la grande figure, qui se trouva être une jeune femme avec un marmot au bras, vint tranquillement à sa rencontre. Maggie leva les yeux sur elle, presque en tremblant, tandis qu'elle s'approchait, et fut rassurée par la pensée que sa tante Poulett et autres avaient raison quand ils l'appelaient une bohémienne, car cette figure aux yeux brillants et aux cheveux noirs avait réellement quelque ressemblance avec ce qu'elle voyait d'elle dans son miroir avant qu'elle eût coupé ses cheveux. « Ma petite dame, où allez-vous ainsi ?» lui dit la bohémienne d'un ton de flatterie respectueuse. Ce fut délicieux et justement ce que Maggie attendait. Les bohémiens voyaient tout de suite qu'elle était une petite dame et étaient prêts à la traiter en conséquence. « Pas plus loin, » dit Maggie, avec le sentiment de dire ce qu'elle avait étudié dans un rêve. « Je viens pour rester avec vous, s'il vous plaît. »« C'est charmant. Venez alors. » « Mais quelle jolie petite dame vous faites, ma parole !» dit la bohémienne, la prenant par la main. Maggie la trouva très aimable, mais aurait désiré qu'elle fût plus propre. Il y avait tout un groupe près du feu quand elles y arrivèrent. Une vieille bohémienne était assise par terre, se frottant les genoux et remuant de temps en temps avec une brochette le contenu d'une chaudière d'où sortait une vapeur odoriférante. Deux jeunes enfants à grosses têtes étaient couchés à côté et s'appuyaient sur leurs coudes, à l'instar de deux petits sphinx, et un âne paisible avançait la tête au-dessus d'une grande fille qui, couchée sur le dos, lui frottait le museau avec une poignée d'excellents foins volés qu'elle lui laissait mordre de temps en temps. Les rayons obliques du soleil tombaient agréablement sur eux, et la scène était vraiment très jolie et engageante. Maggie trouva qu'on ferait bien de préparer au plus tôt les tasses à thé. Tout serait parfaitement bien quand elle aurait enseigné aux bohémiens à se servir d'une cuvette pour se laver et à prendre de l'intérêt au livre. Elle fut un peu confuse, cependant, de ce que la jeune femme commença à parler à la vieille dans une langue qu'elle, Maggie, ne comprit pas, tandis que la grande jeune fille, qui donnait à manger à l'âne, s'assit et la regarda fixement sans nullement la saluer. Enfin, la vieille femme lui dit « Comment, ma jolie dame, vous êtes venue pour rester avec nous ? Asseyez-vous et dites-nous d'où vous venez. » C'était tout à fait comme dans une histoire. Maggie aimait à s'entendre appeler jolie dame et à être traitée ainsi. Elle s'assit par terre et dit « J'ai quitté la maison pour venir ici parce que je suis malheureuse et que je veux devenir bohémienne. Je vivrai avec vous si vous le voulez et je vous enseignerai beaucoup de choses. » « Quelle petite dame instruite !» dit la femme qui tenait l'enfant, en s'asseyant près de Maggie et en laissant l'enfant se traîner par terre. « Quel joli chapeau et quelle jolie robe » ajouta-t-elle, en prenant le chapeau de Maggie et l'examinant, en faisant à la vieille dame une observation dans la langue inconnue. La grande fille s'empara du chapeau et le posa sur sa propre tête sans se devant derrière, avec un rire grimaçant. Mais Maggie ne voulut montrer aucune faiblesse à ce sujet, ni paraître susceptible à l'égard de cette parure. « Je ne tiens pas à porter un chapeau, » dit-elle. « Je préférerais porter un mouchoir rouge, comme le vôtre, » regardant la femme assise à côté d'elle. « Mes cheveux étaient très longs jusqu'à hier, avant que je les coupe. Mais je suis sûre qu'ils reviendront bientôt, » ajouta-t-elle en forme d'excuse, supposant que probablement les bohémiens avaient une forte prévention contre les cheveux courts. Et Maggie avait presque oublié sa faim dans ce moment par le désir de se concilier la bonne opinion des bohémiens. « Oh, quelle gentille petite dame et riche, j'en suis sûr, » dit la vieille femme. « Est-ce que vous ne demeuriez pas dans une très belle maison chez vous ?»« Oui, la maison est jolie, et j'aime beaucoup la rivière où nous allons pêcher. Mais je suis souvent très malheureuse. J'aurais aimé à apporter mes livres avec moi, mais je suis partie précipitamment, voyez-vous. « Je puis vous dire presque tout ce qu'il y a dans mes livres. Je les ai lus tant de fois, et cela vous amusera. Je pourrais aussi vous parler de la géographie, du monde où nous vivons. C'est très utile et très intéressant. Avez-vous jamais entendu parler de Colomb ?» Les yeux de Maggie commencèrent à briller, et ses joues à s'animer. Elle se voyait déjà en train d'instruire les bohémiens et de prendre une grande influence sur eux. Les bohémiennes elles-mêmes n'étaient pas sans étonnement de ce discours. Quoique leur attention fût partagée par le contenu des poches de Maggie, que son amie la plus voisine avait vidées sans attirer son attention. « Est-ce là que vous habitez, ma petite dame ?» dit la vieille femme, à ce nom de Colomb. « Oh non !» dit Maggie avec quelque pitié. « Colomb était un homme étonnant qui a découvert la moitié du monde, et on l'a enchaîné et très maltraité, savez-vous. C'est dans un de mes livres de géographie. Mais peut-être ce serait trop long à vous raconter avant le thé. J'ai tellement besoin de mon thé. » Ces dernières paroles s'échappèrent de ses lèvres en dépit d'elles-mêmes, passant soudain du désir protecteur d'instruire à la simple humeur chagrine. « Mais à la fin, la pauvre petite dame, dit la jeune femme, donnez-lui quelque chose de froid à manger. Vous avez fait beaucoup de chemin, je gage, ma chère. Où est votre maison ?»«
C'est le moulin de Dorlcote, bien loin d'ici, dit Maggie. Mon père est M. Taleva. Mais il ne faut pas qu'il sache où je suis, car il viendrait me chercher pour me ramener à la maison.
Où demeure la reine des bohémiennes ?»«
Quoi, est-ce que vous voulez aller vers elle, ma petite dame ? Dit la jeune femme. »
La grande fille, pendant ce temps, regardait toujours Maggie avec un sourire moqueur. Ses manières n'étaient certainement pas agréables.
« Non, dit Maggie, je pensais seulement que si ce n'était pas une très bonne reine, vous seriez bien aise, quand elle mourrait, de pouvoir en choisir une autre. Si j'étais reine, je serais très bonne reine et très bienveillante pour tout le monde. »
« Voilà un bon morceau à manger, dit la vieille femme, en présentant à Maggie un morceau de pain sec qu'elle avait sorti d'un sac de débris et une tranche de lard froid.
« Je vous remercie, dit Maggie, regardant cette nourriture sans la prendre. Mais voulez-vous me donner à la place du pain et du beurre ? Je n'aime pas le lard. »
« Nous n'avons ni thé ni beurre, dit la vieille femme avec une mine renfrognée, comme si elle commençait à être fatiguée de flatter.
« Oh, un peu de pain et de confiture suffira, dit Maggie. »
« Nous n'avons point de confiture, dit la vieille femme avec humeur. » Sur quoi suivit un vif dialogue entre les deux femmes dans leur langage inconnu, et l'un des deux sphinx s'empara du pain et du lard et se mit à le manger. En ce moment, la grande fille, qui s'était éloignée de quelques pas, revint dire quelque chose qui produisit beaucoup d'effet. La vieille femme, paraissant oublier la faim de Maggie, plongea sa fourchette dans le pot avec une nouvelle vigueur, et la plus jeune se faufila sous la tente, d'où elle sortit quelques assiettes et cuillères. Maggie trembla un peu et eut peur que les larmes ne lui vinssent aux yeux. En cet instant, la grande fille poussa un cri aigu, et bientôt on vit arriver en courant le garçon à côté duquel Maggie avait passé pendant qu'il dormait. Un rude ourson, à peu près de l'âge de Tom. Il fixa des yeux étonnés sur Maggie, et il s'ensuivit beaucoup de babil incompréhensible. Elle se sentit très abandonnée et eut peur de pleurer avant peu. Mais les larmes qui allaient jaillir furent arrêtées par une nouvelle terreur quand arrivèrent deux hommes dont l'approche avait causé cette soudaine agitation. Le plus âgé des deux portait un sac qu'il jeta par terre en s'adressant aux femmes d'une voix forte et grondeuse à laquelle elles répondirent par une grêle de paroles aigres. Tandis qu'un vilain chien noir vint en courant contre Maggie, et la jeta dans une frayeur qui ne fit que s'accroître, quand le jeune homme rappela le chien avec force jurement et lui donna un violent coup de bâton qu'il tenait dans la main. Maggie sentit qu'il était impossible qu'elle fût jamais reine de ces gens-là, ou qu'elle pût leur communiquer quelque connaissance agréable et utile. Les deux hommes avaient l'air de faire des questions à son sujet, car ils la regardaient, et le ton de la conversation prit ce tour pacifique qui indique la curiosité d'un côté et le pouvoir de la satisfaire de l'autre. Enfin, la jeune femme dit, en reprenant son ton obséquieux et respectueux, « Cette gentille petite dame est venue pour vivre avec nous. N'en êtes-vous pas satisfait ?»«
Oh, très satisfait !» dit le plus jeune des deux, qui examinait le dé d'argent et les autres petits objets sortis de la poche de Maggie.
Il les rendit tous, excepté le dé, à la jeune femme, en lui faisant quelques observations, et elle les remit tout de suite dans la poche de Maggie. Les hommes s'assirent et attaquèrent le contenu de la marmite, un mélange de viande et de pommes de terre que l'on avait enlevé du feu et versé dans un plat de terre jaune. Maggie commença à penser que Tom devait avoir raison au sujet des bohémiens, qui étaient certainement des voleurs, à moins qu'ils ne voulussent lui rendre plus tard son dé à coudre. Elle l'aurait volontiers donné, car elle n'avait pas grande affection pour son dé. Mais l'idée qu'elle était avec des voleurs l'empêcha d'éprouver quelque agrément à ce retour de respect et d'attention pour elle. Tous les voleurs, excepté Robin Hood, étaient de méchantes gens. Les femmes virent qu'elle était effrayée. « Nous n'avons rien de bon à manger pour une dame, » dit la vieille de son ton mielleux.
et elle a si faim, cette charmante petite dame.
« Voyons, ma chère, essayez si vous pouvez manger un morceau de ceci, » dit la jeune femme, en lui présentant un peu de l'étuvée sur une assiette brune avec une cuillère de fer. Maggie, se rappelant que la vieille femme avait paru fâchée contre elle de ce qu'elle n'aimait pas le pain et le lard, n'osa pas refuser, quoique la peur eût chassé son appétit. Si son père pouvait seulement venir dans le cabriolet à bancs et l'emmener, ou même si Jack, le tueur de géants, ou M. Grandcœur, ou Saint-Georges, qui tuait le dragon sur les pièces de monnaie, pouvaient passer par là. Mais Maggie pensa, le cœur défaillant, que ces héros ne se voyaient jamais dans le voisinage de St. Ogg's. Il n'y arrivait jamais rien de surprenant. Maggie Tarleva, vous voyez, n'était nullement la jeune personne bien élevée et bien instruite que doit être nécessairement une jeune fille de 8 à 9 ans de notre temps. Elle était allée à l'école de St. Ogg's pendant une année seulement et avait si peu de livres qu'elle lisait quelquefois le dictionnaire, de sorte qu'en fouillant dans son petit esprit, vous y auriez trouvé l'ignorance la plus inattendue, aussi bien qu'une instruction qui vous aurait surpris. Elle aurait pu vous apprendre qu'elle savait le mot polygamie, et que, connaissant aussi celui de polysyllabe, elle en avait déduit la conclusion que poly voulait dire plusieurs. Mais elle n'avait aucune idée que les bohémiens ne fussent pas pourvus de comestibles, et ses pensées étaient en général le plus singulier mélange de finesse clairvoyante et de songes aveugles. Ses idées au sujet des bohémiens avaient subi de grandes modifications pendant les 5 dernières minutes. Après les avoir considérés comme des compagnons très respectables, capables de recevoir de l'instruction, elle en était venue à penser qu'ils avaient peut-être l'intention de la tuer dès qu'il ferait nuit, et de couper son corps en morceaux pour en faire plusieurs repas. Un terrible soupçon traversa même son esprit. C'est que cet homme âgé, aux yeux durs, pourrait bien être le diable en personne, qui, d'un moment à l'autre, laisserait tomber ce déguisement trompeur et paraîtrait, soit comme le maréchal Ferrand grimaçant, soit comme un monstre aux yeux sanguinaires et aux ailes de dragon. Il ne lui était pas possible d'essayer de manger de ce ragoût. Et pourtant, elle craignait par-dessus tout d'offenser les bohémiens, en laissant voir l'opinion très peu favorable qu'elle avait d'eux. Elle mettait aussi une vivacité d'intérêt qu'aucun théologien n'aurait pu dépasser, à savoir si le diable, étant réellement présent, pouvait connaître ses pensées. « Eh bien, vous n'en aimez pas l'odeur, ma chère, » dit la jeune femme, voyant que Maggie ne prenait pas même une cuillerée de ce ragoût. « Essayez-en un peu, voyons. »« Non, je vous remercie, » dit Maggie, rassemblant toutes ses forces, dans un effort désespéré et essayant de sourire d'une manière amicale. « Je n'en ai pas le temps, je crois. Il me semble qu'il se fait sombre. Je pense que je devrais retourner à la maison et revenir un autre jour. Et alors je pourrais vous apporter un panier avec quelques tartes à la marmelade et autre chose. » Maggie se leva en jetant cette promesse illusoire, espérant dévotement qu'Apollyon pouvait se laisser tromper. Mais son espoir s'évanouit quand la vieille bohémienne lui dit « Attendez un peu, petite dame. Nous vous ramènerons en sûreté à la maison quand nous aurons soupé. Vous serez portée chez vous comme une dame. » Maggie se rassit, ajoutant peu de foi à cette promesse, quoiqu'elle vit bientôt la jeune fille mettre une bride à l'âne et jeter une paire de sacs sur le dos de cet animal. « À présent, petite dame, » dit l'homme le plus jeune, en se levant et faisant approcher l'âne, « dites où vous demeurez et comment s'appelle l'endroit. » « Je demeure au moulin de Dorlcote, » dit vivement Maggie. « Mon père est M. Tarleva. C'est sa maison. »« Quoi, un grand moulin de ce côté-là, à peu de distance de St. Ogg's ?»« Oui, » dit Maggie, « c'est très loin. Je crois que j'aimerais à y aller à pied, s'il vous plaît. »« Non, non, l'obscurité va venir, il faut se hâter. Et l'âne vous mènera aussi gentiment que possible, vous verrez. » Il souleva Maggie en disant cela et l'établit sur l'âne. Elle se sentit soulagée de ce que ce n'était pas l'homme âgé qui paraissait devoir l'accompagner. Mais elle n'avait encore qu'une espérance incertaine d'aller réellement à la maison. « Voilà votre joli chapeau, » dit la jeune femme, en remettant cette portion de costume récemment dédaignée, mais bienvenue maintenant sur la tête de Maggie. Et vous direz que nous avons été très bons pour vous, n'est-ce pas? Et quelle gentille petite dame nous avons dit que vous êtes. « Oh oui, je vous remercie, » dit Maggie. « Je vous suis très obligé.
mais j'aimerais que vous vinssiez aussi avec moi. » Elle aurait préféré cela à s'en aller seule avec un de ces hommes effrayants. C'eût été moins triste d'être assassinée par une bande plus nombreuse. « Ah, vous m'aimez bien, n'est-ce pas ? » dit la femme. « Mais je ne puis vous suivre. Vous irez trop vite pour moi. » Il parut alors que l'homme devait aussi monter sur l'âne et tenir Maggie devant lui. Elle était aussi incapable de s'opposer à cet arrangement que l'âne lui-même, quoiqu'aucun cauchemar ne lui eût jamais semblé aussi horrible. Quand la jeune femme lui eut fait une caresse sur l'épaule et dit « Portez-vous bien », l'âne, à un vigoureux signal du bâton, partit d'un pas rapide le long du sentier qui conduisait au point d'où Maggie était venue une heure auparavant, tandis que la grande fille et le sauvage ourson, munis de bâtons, les escortèrent obligeamment pendant une centaine de pas, avec beaucoup de cris et de coups redoublés. Lénore, dans sa surnaturelle excursion de minuit avec son amant fantôme, ne fut pas plus épouvantée que Maggie dans sa course des plus naturelles sur un âne au trot pressé, ayant derrière elle un bohémien qui savait gagner ainsi une demi-couronne. La lumière rouge du soleil couchant semblait ajouter un puissant effet à l'effrayant braiement de l'autre âne aux jambes entravées. Les deux chaumières, les seules maisons qu'ils rencontrassent sur ce sentier, semblaient ajouter à sa tristesse. Elles n'avaient pour ainsi dire pas de fenêtres, et les portes en étaient fermées. Elles étaient probablement habitées par des sorcières, et ce fut un soulagement de voir que l'âne ne s'y arrêtait pas. Enfin, oh quelle joie, ce sentier le plus long du monde aboutissait à une grande route sur laquelle passait une voiture. Et il y avait un indicateur à l'angle. Elle l'avait déjà vu, bien certainement, 2 miles de St. Ogg's. Le bohémien avait donc bien l'intention de la conduire chez elle. C'était probablement un brave homme, après tout, qui aurait pu être blessé de la pensée qu'elle ne se confiait pas pleinement à lui. Cette idée prit plus de force à mesure que Maggie devint certaine de reconnaître la route, et elle cherchait comment elle pourrait entamer la conversation avec lui, non seulement pour flatter les sentiments qu'elle lui supposait, mais pour effacer l'impression qu'il pourrait avoir reçue de sa poltronnerie à elle. Lorsqu'en atteignant un chemin de traverse, elle aperçut quelqu'un qui arrivait par là sur un cheval à front blanc. « Oh, arrêtez, arrêtez !» s'écria-t-elle. « Voilà mon père. Oh, père, père !» Sa joie subite fut presque douloureuse, et avant que son père arrivât, elle sanglotait. Grand fut l'étonnement de M. Taleva, car il avait fait un détour depuis le Bassett et n'était pas encore rentré chez lui. « Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire » dit-il, en arrêtant son cheval, tandis que Maggie se glissait à bas de l'âne et courait vers l'étrier de son père. « Cette petite demoiselle s'était égarée, je pense, » dit le bohémien. « Elle est arrivée à notre tente, tout au bout du sentier de Dunlow, et je la ramenais à l'endroit où elle nous a dit qu'elle demeure. Et c'est un bon bout de chemin à faire, après avoir été toute la journée en course. « Oh oui, père, il a été bien bon de me ramener à la maison, » dit Maggie. « C'est un bien bon et bien honnête homme. « Tenez alors, mon brave, » dit M. Taleva, en sortant 5 shillings. « Voilà la meilleure journée de travail que vous ayez jamais faite. Je n'aurais jamais pu supporter la perte de la petite. Tenez, aidez-la à monter devant moi. » Et puis Maggie, comment est-ce que cela est venu ? Dit-il, tandis qu'il chevauchait. Elle avait appuyé la tête contre son père et pleurait. « Comment en es-tu venu à errer par là et à t'égarer ?»« Oh, père, » dit Maggie en sanglotant, « je me suis sauvée parce que j'étais si malheureuse. » Tom était si fâché contre moi, je ne pouvais le supporter. Bah, bah, dit M. Taleva en la consolant, il ne faut pas penser à te sauver loin de ton père. Que ferait-il sans sa petite? Oh non, je ne le referai jamais, père, jamais. M. Taleva parla d'un ton très décidé quand il arriva à la maison le soir, et la conséquence s'en fit sentir dans le fait remarquable que Maggie n'entendit jamais un reproche de sa mère ou une allusion de Tom sur la ridicule aventure de s'être sauvée chez les bohémiens. Maggie fut presque frappée d'étonnement de ce procédé inusité et pensait quelquefois que sa conduite avait été trop mauvaise pour qu'on en fît mention.